Chapitre 11. Lorsque Oxen fut loin de la maison, Oulana se sentit libre de nouveau. Il lui fut aisé de comprendre que ce n'était pas seulement grâce à un simple hasard que son mari, à peine de retour d'un premier voyage, en entreprenait un second. Dans son affolement, elle n'ignorait pas que son secret était connu de chacun. Mais, consciente d'être heureuse, elle oublia facilement la pudeur, les menaces de son mari et l'avenir. C'est la première fois que cette femme, jusqu'à présent restée comme par miracle pure parmi les corrompus, enveloppée par le souffle d'une jouissance inconnue et circonvenue par des idées qui, bien que bizarres, parlaient toutefois à son cœur, se sentit dans son égarement pénétrée d'une passion assez forte pour pouvoir tout envisager avec indifférence et tout mépriser. Un courage qui jusqu'alors lui avait été étranger et qui s'était révélé à elle ce matin-là pour la première fois, ne l'abandonnait plus. Elle chantait gaiement en s'occupant de son ménage et de ses enfants, mais sa pensée était ailleurs. Ses enfants n'éveillaient même pas en elle, comme autrefois, un attachement maternel. Leurs pleurs parvenaient souvent à ses oreilles, sans plus trouver d'écho dans son cœur. Elle les regardait avec indifférence, froidement. Elle les baisait, comme autrefois, tout en songeant à d'autres baisers et à un autre amour. Où une simple femme du peuple, dira l'un d'entre vous, aurait-elle puisé tant de sentiments? Mais le sentiment est-il l'apanage exclusif des gens instruits? Qu'un gerbe d'amour ignoré vienne à tomber, à s'enraciner au fond d'une âme primitive, telle que Dieu l'a créée, qui n'a rien perdu de son intégrité, de sa vigueur initiale, et qui, vierge de tout excès, n'ayant pas mésusé de sa jeunesse, dort dans le corps ainsi qu'un enfant en son berceau, alors aussitôt que cet amour lui dévoile ses merveilles, lui découvre un monde inconnu, l'arrache à la vie animale pour l'entraîner vers une sphère plus haute, cette âme s'exalte d'une passion indomptable et sauvage que rien ne saura briser ni abattre. Au sentiment dont elle est imprégnée s'ajoute une curiosité enfantine que n'éprouve point d'autres natures plus raffinées et familiarisées avec tout. Tel était l'attachement d'Oulana pour son bonheur actuel. Et que de félicité n'espérait-elle point encore de l'avenir? Combien même ne nourrissait-elle pas d'espérances jamais irréalisables? Oulana n'était pas une femme vulgaire, sans âme ni pensée. Ce n'était point une jolie babiole pour le plaisir des yeux. À un plus haut degré de l'échelle sociale, elle eût peut-être excité l'admiration de ceux qui maintenant dédaignaient de la regarder. Si bas que le destin l'eût placée, elle avait des idées, des sentiments au-dessus de son état et une intelligence supérieure à sa condition. Thaddée s'en était déjà maintes fois aperçu, et cela l'attacha plus passionnément à Oulana. Poétique par sa simplicité même, comme tous les villageois, chaque jour elle concevait et comprenait mieux celui qui lui parlait le langage enflammé de la passion. Peu à peu, elle devenait à ses yeux quelque chose d'idéal. Il est facile de deviner quelle sensation un idéal tellement étrange pouvait provoquer dans le cœur chimérique d'un jeune homme dont la lecture des livres du siècle passé avait farci la tête de récits d'une si profonde invraisemblance mais d'une invention si séduisante. Il se trouvait sous l'empire d'un charme inconcevable, qui lui voulait la réalité, et l'espoir de l'accomplissement de l'un de ses rêves les plus féeriques était seul capable de l'exalter. Irrité et incertain de ce qu'il devait faire de sa personne, il s'en alla à la chasse et en revint avec les mêmes idées, mais avec de la fatigue et du souci en plus. Il ordonna de meilleure heure que de coutume aux gardes de siffler les chiens et de rebrousser chemin vers la maison. Car, bien qu'il n'eût aucune chance de rencontrer Oulana, il se fiait aux circonstances et avait un vague pressentiment qu'il la verrait quoiqu'il ne sût ni où ni comment. Peut-être ne voulait-il que se rapprocher d'elle. Dès que le crépuscule commença à tomber, il ouvrit les portes vitrées du jardin, qui, situé sur le versant d'une petite éminence, se prolongeait jusqu'au lac, et il descendit lentement. Justement, le disque rouge de la lune émergeait des nuages. On entendait le beuglement du bétail au village, le grincement des roues des chariots qui suivaient l'autre bord du lac, les cris de la cigogne perchée sur le grenier. Adé, attristé à la vue du village, dont les bruits du soir et les rires arrivaient à ses oreilles, avança jusqu'au lac même. Là, il s'assit sur un banc, sous les peupliers, qu'entouraient des lilas en fleurs. Involontairement, ses yeux se tournèrent vers le panorama qui se déroulait devant lui. Ce panorama n'était pas d'une grande dimension ni d'une extrême beauté, mais il avait le charme inconcevable dont le revêtait partie l'heure du soir et partie sa situation. Il avait pour coupole un ciel paré de ses vêtements, si étrangement beau, réservé à des soirées exceptionnelles. Au coucher, ce ciel brillait de la couleur du rubis. Plus haut, il était doré. Plus loin, jaune pâle. Encore plus loin, d'un bleu foncé et déjà scintillant de pâles étoiles qui semblaient seulement se montrer timidement et disparaître dans les airs. Flottaient des nuages sombres d'un côté, de pourpre de l'autre, perdant toujours de plus en plus leur couleur vers le sommet. Brillant, il n'y a qu'un instant maintenant, s'éteignant sous vos yeux. En face, déjà rouge, gigantesque comme une pensée naissante, la lune énorme s'élevait et traversait les nuages foncés d'un bleu de saphir. Le ciel était séparé de la terre par un noir ruban de forêt, découpé en une dentelure multiforme. Au-dessus des prairies et des eaux planait déjà la brume légère et magnifique des soirées et des matinées. À gauche, sur une colline, se dressait la vieille chapelle en ruine, où tant de fois sa mère pria Dieu pour lui, où tant de fois lui-même récita avec elle ses prières du soir. Noire, triste, morne, elle réfléchissait sur plusieurs vitraux brisés, les éclats rouges du soleil couchant, comme le cœur réfléchit les souvenirs. Son toit étincelait çà et là, et au-dessus criait une chouette qui avait établi son nid dans une coupole lézardée. Plus loin, la colline s'abaissait, et au-delà d'un petit pont commençait le village. Il décrivait un demi-cercle autour de cette partie du lac, abondamment fourni de joncs, d'herbes, de plantes aquatiques et d'osiers. C'est presque à cette jonchée que venaient aboutir les haies des jardinets des paysans aux plates-bandes très élevées. À l'extrémité opposée de ces jardinets se distinguaient les chaumières aux longues cheminées fumantes, quelques poiriers, le sommet de la bascule des puits, les toits des granges, et plus loin encore un cabaret chétif et noir dont les fenêtres étaient déjà éclairées. Entre le cabaret, l'église et le presbytère, entouré d'une haute palissade et d'un jardin fruitier, une route sinueuse, élongeant la rive du lac, était peuplée en ce moment de paysans qui se retournaient des champs. À droite s'étendaient des prés et des cultures, dont la vue lui était interceptée par une butte aux alliés épais, comprise dans le jardin seigneurial. Le silence devenait plus solennel à mesure qu'expiraient les faibles rumeurs qui de temps à autre s'élevait de la route ou du village. Les grenouilles même des marécages environnants ne coassaient pas. Dans le lac, il n'y en avait pas. Aussi le peuple racontait-il diverses légendes pour expliquer leur absence. Le calme de cette soirée, agissant sur Thaddée, l'enveloppa des souvenirs du passé, lui remit en mémoire les soirées de sa jeunesse écoulées ici, les caresses maternelles, les conseils de son père, ses propres rêveries d'adolescent, et il poussa un soupir. Et un autre soupir se fit entendre tout près, à côté de lui. Oulana lui saisit la main, qu'elle baisa en sanglotant. Oh, c'est toi, Oulana?
Oui, c'est moi, mon maître et mon faucon. C'est moi de nouveau, me voici avec vous.
Et comment es-tu venu ici?
Oh, comment? Oh, je suis accouru, mais est-ce que je sais comment? Je n'y pouvais tenir plus longtemps. Sans vous, comme sans pain, il m'est maintenant impossible de vivre.
Et déjà, Thaddée la serrait dans ses bras d'une étreinte brûlante. Ils n'échangeaient plus une parole. Leur respiration haletante, leurs yeux enflammés et leurs mains enlacées témoignaient seuls de leurs sentiments. « Ah !» demanda Thaddée après un instant. « Où est ton mari? Il est donc de retour ?»«
Il est parti de nouveau, » répondit la femme avec une joie visible.
« Mais où? Comment ?»«
Mais on l'a envoyé s'employer au transport militaire. »«
Il sait tout ?»«
Mais il le sait, mais qu'est-ce que ça peut faire? Il a même battu hier. J'en ai encore les marques. »«
Il a osé te frapper ?»
Oh, je ne sentais pas la douleur, et aujourd'hui j'ai tout oublié. Il m'a battu à cause de vous. Et pour vous, oh, s'il fallait même mourir.
Thaddée sentit les larmes lui venir aux yeux, et la colère grondait dans son cœur. Mais comment as-tu osé venir ici, lorsque tous te regardent?
Oh, qu'ils regardent, qu'ils voient. Répondit la femme en l'embrassant avec un transport farouche et en fixant sur lui ses regards qui savaient lui tenir un si merveilleux langage. Qui me tue même, cela m'est tout à fait indifférent. Est-ce que l'amour seigneurial ne finit pas toujours par la mort et par l'affliction? Cela vaut bien les larmes que cela coûte, cela vaut bien qu'on en meure. Mon roi de lait, mon faucon, continua-t-elle. Je volais vers vous comme autrefois je volais vers mes enfants. Tous le voyaient et me montraient au doigt. Et moi, j'allais, je courais, je ne faisais qu'attention à rien. Oh, moi, je vous aime tant.
Pendant qu'elle parlait ainsi, ses lèvres et ses yeux étaient de flammes, sa poitrine s'élevait et s'abaissait sous sa grosse casaque comme les vagues du lac. Ses mains tantôt tremblaient de froid, tantôt retombaient brûlantes et sans force, et elle avait des espèces de soubresauts douloureux.
« Retirons-nous d'ici, » dit-elle un moment après d'une voix étouffée. « Ici nous pouvons être vus. Allons à la cabane du jardinier. »
Et ils se rendirent en silence à une vieille cabane abandonnée qui se dressait auprès d'un vieux poirier. Lorsqu'ils furent assis l'un à côté de l'autre, Thaddée lui dit,
« Hier, me trouvant par hasard auprès du cabaret, tandis que ton mari, ton père et ton beau-père se consultaient, j'ai entendu leurs menaces contre moi.
Oh, je ne les crains pas. Dis-moi, qui t'a accusé le premier devant ton mari ?»«
Les gens ont des yeux de chat, » répondit la femme. « Ils sont comme le coucou, au fait de tout, et comme le coucou, ils ébrouillent tout et ne savent pas tenir leur langue. » Le vieux père et le frère d'Oxen se sont hâtés de le mettre au courant des choses. Et à peine sorti du cabaret, il m'a battu dans la rue. J'ai dû me réfugier chez ma sœur. Et je me suis rentré qu'au matin dans la chaumière. Mais il ne m'a plus touché, parce qu'il m'a senti décidé à me défendre.
« Dis-moi, » interrompit Thaddée, « cela ne peut pas toujours durer ainsi. Que ferons-nous ? »
« Que sais-je ? Advienne que pourra. C'est à vous de vous arranger à votre guise. Je suis vôtre. À vous de vouloir. Si on lâchait un peu la bride à mon mari, ou si on le dispensait de travailler, peut-être se tairait-il. Mais qu'est-ce que j'en sais ? »
Mais non, reprit Thaddée, il deviendrait encore plus audacieux.
Faites ce qu'il vous plaira, dit Oulana. Moi, je viendrai toujours chez vous, à moins que je sois attaché, enfermé, Et même alors, j'accourrai, je m'échapperai, je briserai les obstacles, je couperai les liens avec mes dents. Je ne puis pas vivre sans vous, pas plus qu'un poisson sans eau. » Elle le serrait de nouveau contre sa poitrine, lui baisait la main, pleurait de joie, l'étreignait, riait, lui jetait les bras autour du cou avec une inexprimable passion. Elle était quasi folle, et son délire se communiqua aussi à Thaddée, de sorte qu'il ne s'aperçut même pas que cette courte nuit de printemps, inondée de rosée et vêtue de brume, avec une fraîcheur croissante, approchait de sa fin. Le coq chantait pour la seconde fois, et l'aurore brillait au ciel lorsqu'Oulala se déroba à ses embrassements et prit sa course le long du lac. Et Thaddée, transi de froid, triste, pensif, rentra par la porte restée ouverte dans son logis désert. Il faisait jour qu'il ne dormait pas encore. Il se promenait, il songeait à lui, à elle, à cet amour, dont la passion dépasserait tout ce qu'il aurait rêvé. Oh, pensait-il, ce ne peut sans doute être qu'un songe merveilleux, qu'un mirage. Un pareil amour chez une telle femme, une pareille âme sous cette souquenille, de pareils yeux chez une simple villageoise. Mais pourquoi n'est-elle pas libre? Le monde entier aurait eu beau jaser et déverser sur ma tête son mépris jusqu'à la lie. Moi, j'aurais été heureux avec elle. Ma tendresse l'aurait métamorphosée en ange. Je l'aurais rendu l'étonnement du monde. Mais alors, pensait-il de nouveau, ne serait-elle point refroidie à mon égard? Et ne m'aurait-elle point trahi comme l'autre? Non! Elle n'aurait plus su m'aimer autant. Il vaut mieux qu'elle reste telle qu'elle a sauvagement grandi sur les rives de ce lac, sous ces sombres forêts. Elle est franche, elle est elle-même. Dans cet autre monde, il ne faut chercher ni dévouement ni franchise. Les femmes y sont à la poursuite d'un mari, de leur indépendance, d'applaudissements. Elles ont d'autres sentiments que l'amour-propre. Reines pour lesquelles il semble que l'univers entier ait été créé, au cœur vide et à la tête en feu, qui demandent tous les sacrifices, ne sont susceptibles d'aucun. Les femmes, aussi bien que le reste de notre société, a besoin d'être régénérées. Il faut lui greffer le sentiment dont l'a dépossédé l'éducation réfrigérante qu'elle reçoit depuis des siècles. Aujourd'hui, elle trafique de ses charmes. C'est une marchande, une spéculatrice, une courtisane, dont elle n'a plus de cœur, car, dès son jeune âge, on le lui a amputé comme un organe dangereux pour son avenir. Cœur et sentiment ne se rencontrent plus que parmi le peuple. Telles étaient les réflexions de Thaddée, car au souvenir d'Oulala se mêlaient les réminiscences de son premier amour, et son cœur se gonfla du bouillonnement d'un restant de bile qu'il n'avait pas encore digéré. « Et il a fallu, se dit-il, que mon choix tombât si malheureusement sur une paysanne, sur ma propre serve. Une malchance inconcevable me poursuit. Est-ce que j'ai cherché cette femme? Mais pourquoi récriminer? Remercions plutôt le hasard. Non, que ce qui doit arriver s'accomplisse, ce sera bien ainsi. Qui sait si le sang et le feu n'apparaîtront pas au cinquième acte du drame? Tant mieux. Que vaudrait une existence dénuée de vie, d'incidents, d'émotions et de sentiments? Ces dernières paroles peignaient le mieux l'état moral du pauvre enthousiaste. Altéré, il voulait boire, fût-ce du sang et des larmes.
Chapitre 12. La semaine s'écoula inaperçue. Elle s'envola avec la rapidité du faucon et s'éclipsa avec la soudaineté de l'éclair. Oh, le temps réalise des miracles. Comme il s'étend parfois et comme d'autres fois il se resserre et se rétrécit autour du malheureux. La vie est un siècle et la vie est un moment. On dirait que dans le bonheur on happe le temps à grandes gorgées et que dans le malheur on le hume goutte à goutte. Le monde le sait depuis longtemps et cela lui semble pourtant toujours étrange. Et ce n'est jamais sans surprise qu'il répète comme le temps a passé. Mais la vie passe de même et tu finiras par t'apercevoir que tu n'as aucunement vécu. Thaddée s'enterra dans le présent et ne pensa pas au lendemain. Elle aussi, amante encore plus farouche, elle puisait à longs traits à la source enchantée avec l'avidité d'une bête fauve qui, au plus fort de la chaleur du jour, ne se laissera détourner de l'eau ni par une balle ni par la mort. Dans son assouvissement, chaque passion a un moment de frénésie, d'aveuglement, d'indifférence à tout ce qui n'est pas elle, à tout ce qui ne se rapporte pas directement à elle. Et ce qui n'est qu'au second plan, lors même que cela se rattacherait à elle, elle le repousse et l'oublie de parti pris. Elle ne veut pas prématurément assombrir son ciel de ces nuages qui n'envahissent que trop tôt l'horizon. L'état de l'âme de cette femme passionnée, qui étanchait la première fois une soif jusqu'alors à elle inconnue, se conçoit aisément. Altérée de volupté, elle ne comprenait pas pourquoi elle ne s'en serait pas abreuvée. Elle ne réfléchissait ni aux traverses, ni aux empêchements, ni aux obstacles. C'était une femme simple, passionnée, un ange par les yeux, une bête par le corps et la volonté. Et comme lui allait à ravir, cette passion enflammée, indomptable, sincère, presque éhontée. Où verrez-vous aujourd'hui pareil amour? Peut-être est-ce à cause de l'étrangeté de cet attachement, si rayonnant qu'il empiétait sur le domaine du rêve et de la fiction, que Thaddée persista dans un amour inouï, insensé, monstrueux, pour une femme incapable de le comprendre. La passion l'enveloppa d'une buée contagieuse, lui tua le cœur, lui incendia la tête, fit éclater ses considérations de convenance et de décorum qui, comme de derniers nœuds, le rattachaient à ce monde. Il ferma les yeux et se précipita dans l'abîme. Il n'avait jamais cru qu'il en viendrait là. Les beaux yeux d'Oulana l'avaient ensorcelé par leur éclat, par leur expression, grosse de l'obscure révélation de je ne sais quel mystère. Seulement, il n'avait point prévu que, chez lui et que chez elle, la passion acquérait une telle violence. Maintenant, ils glissaient déjà, lancés du sommet d'une montagne, et rien ne pouvait plus les arrêter. Mais lui, pouvait-il longtemps se repaître d'un pareil amour? Je l'ignore. Une semaine après, sa passion entra dans une seconde phase. Il commençait, se sentant heureux, à édifier son lendemain, à penser à l'avenir. Elle persistait toujours dans son premier oubli de tout, dans son aveuglement et dans sa clémence. Son délire à lui s'éclaircissait comme un brouillard, au travers duquel on distinguait déjà le monde ambiant. Tandis qu'elle, elle ne voyait rien en dehors de lui. Pour lui, Oulana était toujours belle, c'était toujours une amante ardemment convoitée, quoique énigmatique. Mais sa raison lui montrait déjà que les paupières qui s'abaissaient sur ses yeux ravissants étaient bleuies de larmes, que cette main était durcie par l'excès du labeur, et se surprenait parfois à trouver ridicule le langage simple et passionné d'Oulana. Cette phase n'attendait Oulana que dans un avenir lointain, à supposer qu'il fût dans sa destinée de la traverser, car sa passion était sa vie, le délire et la folie étaient devenus son état normal. Pour elle, sauvage, campagnarde, il n'y aurait pas de désenchantement tant que l'amour durerait, il n'y aurait pas de satiété tant que bouillonnerait la passion. Et dans ce cœur où elle avait éclaté si tardivement et si étrangement, la passion ne pouvait s'éteindre qu'avec la vie. Il fallait être une simple villageoise pour aimer d'un pareil amour. Les autres femmes ne sauraient le concevoir, encore moins le ressentir. Comment elles, qui sont usées par leurs pensées, versées dans la théorie des passions, et qui jouent avec l'amour plutôt qu'elles ne l'éprouvent, pourraient-elles aimer ainsi? Jamais. Elles se consument de leur jeunesse à la flamme de leurs idées oisives et vides. En s'éprenant des créations de leur cerveau, elles leur sacrifient toute l'énergie de leur cœur. Quand sonnent ensuite les années de leur épanouissement, alors se développe une fleur chétive, d'une pâleur recherchée, que la froidure matinale fanera, que la chaleur du jour desséchera et que le vent du soir détachera de sa tige. Voilà l'amour de nos dames. Des villageoises, de simples femmes, aiment très rarement. Leur amour, c'est un phénomène. C'est cette fleur d'aloès qui n'éclot qu'une fois dans un siècle. Mais lorsqu'elle s'épanouit, oh, c'est la fleur des fleurs, pleine de force, de charme, de parfum. Elle se flétrira, mais sa tige séchera en même temps que sa fleur. Dans un cœur vierge, l'amour se greffe pour les siècles. Une semaine s'écoula et Thaddée en était déjà à réfléchir, à regarder autour de lui, à peser le pour et le contre. Quant à elle, sa passion augmentait encore, et de sa véhémence fomentait l'amour un peu défaillant de son maître et le maintenait son amant. Mais la raison parlait plus souvent et plus haut à cet amant. Elle le raillait et s'indemnisait de sa période de silence par d'incessantes récriminations. Sur ces entrefaites, Oxen revint, mais cela ne modifia en rien leur relation. Il semblait décidé à fermer les yeux, surtout à ne faire attention à rien. Soucieux, sombre, il gardait un silence opiniâtre. Il ne jetait même pas un regard sur sa femme et ne lui demandait jamais où elle allait. Il la traitait comme si elle lui était tout à fait étrangère et pourtant il voyait tout. Mais que s'était-il donc passé en lui? C'est ce que fréquemment se demandait Oulana, qui cherchait la cause d'un changement si soudain. Ce silence méprisant la frappa, quoiqu'elle n'en fût d'ailleurs point fâchée. Or, l'indifférence d'Oxen n'était pas réelle. C'était une feinte qui l'aidait à dissimuler une colère impuissante, refoulée pour un temps au fond de son cœur, d'autant plus forte qu'elle était comprimée et dont l'explosion devait être épouvantable. Thaddée s'inquiétait aussi de le voir tellement silencieux et en apparence si indifférent. Il connaissait les hommes et savait que chez un simple paysan, le désir de la vengeance ne se laissait étouffer par rien. Il pressentait l'imminence d'une catastrophe. Mais Oxen, chaque fois qu'il rencontrait son seigneur, ôtait humblement son bonnet, se courbait jusqu'à ses genoux, et lui envoyait des salutations d'une astucieuse bassesse. Pour désarmer le paysan, le seigneur employait maintenant tous les moyens de la douceur, et il croyait le vaincre de cette façon de gagner. Il se trompait fort. Oxen acceptait tout, ne témoignait aucune joie, reconnaissance ni surprise. Seulement parfois, il souriait avec perfidie. Tout se trouvait payé par son renoncement, en quelque sorte total, à sa femme. Elle était à la maison, qu'il la regardait à peine. Elle n'y était pas, qu'il ne s'informait pas où elle pouvait être. Elle sortait de la chaumière sans une syllabe de lui pour la retenir. Elle y rentrait, la nuit, sans une question de sa part. Il passait la majeure partie de son temps attablé au cabaret, buvant seul ou régalant les autres, mais la boisson même ne lui déliait pas la langue. Il restait aussi muet qu'une pierre, sauf que parfois, son juron habituel, que les sorts, diable, les, s'échappait de ses lèvres et témoignait qu'il sentait pourtant quelque chose. Pauluc et Lefko, en voyant son parti pris d'indifférence, cessèrent de l'importuner et ne lui soufflèrent plus mot de sa femme. Ulas le trouvait devenu enfin sensé, mais il lui disait: Sois donc pleinement raisonnable, ne néglige pas ton ménage. Ne jette pas le manche après la cognée, quand c'est le vrai moment de songer à toi. Mais toi, tu restes seulement au cabaret, tu bois et tu oublies la chaumière. Non, demande tous les jours quelque chose, fais-en à croire, remplis tes poches. Au moins tu t'enrichiras et tes enfants auront un morceau de pain. Oxen ne répondait rien. Il haussait les épaules, allumait sa pipe, et avec un peu de menu monnaie noué dans le coin de son mouchoir, se rendait au cabaret. Le vieux Hulas était obligé de penser lui-même à tout. Sa belle-fille battait la campagne, son fils s'adonnait à la boisson, et sans lui, le bétail aurait péri et le champ fut demeuré en friche. Un soir, Oxen revint de bonne heure à la chaumière et parut plus affairé que de coutume. Il remplit sa besace de pain, attela son chariot, donna de l'avoine aux chevaux, revêtit sa capote et se choisit une hache. « Et où vas-tu donc, mon fils ?» demanda Hulas. « À la forêt, père. Il n'y a plus de bois. J'y passerai la nuit et je reviendrai demain avec un chariot plein. »« Ah, c'est heureux que la raison soit enfin venue, » dit Hulas. « C'est le moment pour nous de monter notre ménage et de nous enrichir. » Oxen hocha la tête et sourit méchamment, mais il ne répliqua plus rien. Il enfonça son bonnet sur ses oreilles, prit un bâton et se hissa sur le chariot, d'où il échangea encore des propos avec les passants, répétant à chacun qu'il s'en allait à la forêt. En passant devant le cabaret, il s'arrêta de nouveau pour causer avec les gens qui se tenaient sur le seuil de la porte, vida un verre, alluma sa pipe, fouetta ses chevaux et, comme un fou, roula vers la forêt. Le crépuscule tombait déjà. Les lumières brillaient aux fenêtres des chaumières. Il y avait beaucoup de mouvement dans la rue du village. Les femmes jasaient debout, les bras croisés, devant les portes des cours, et les hommes étaient assis sous l'auvent. Les enfants gambadaient dans la rue. Les jeunes filles s'en allaient puiser de l'eau avec leurs seaux ou causaient auprès du puits, le menton dans une main, tandis que l'autre s'appuyait sur la bascule du puits. De petits troupeaux de moutons noirs ou gris se pressaient aux portes ouvertes des étables. Oulana n'était plus au logis, elle avait couru au château. Par la porte vitrée, qui n'était point fermée, elle s'était glissée jusqu'à la chambre du maître, et assise auprès de lui, elle regardait le feu flamber dans la cheminée. Thaddée était triste et ne savait de quoi. Il avait appuyé sa tête sur l'épaule d'Oulana et il méditait. Oulana avait essayé vainement plusieurs fois d'interrompre son long mutisme. Maintenant, elle se contentait de tenir les yeux fixés sur les siens, sans parler. Rien ne troublait plus ce silence, sauf le pétillement du feu et le sourd bruissement des arbres du jardin, au-dessus desquels une troupe de corneilles annonçait la pluie par leur croassement. Tandis que la nuit avançait, eux, ils restaient encore assis comme auparavant. De temps en temps, Thaddée poussait un soupir, tantôt lui jetant ses bras autour du cou, tantôt les laissant retomber, et arrêta alternativement son regard sur ses yeux ou sur le feu qui s'éteignait. Déjà, dans le village, les lumières avaient disparu, les chants s'étaient tus, on n'entendait plus que le gloussement vigilant des poules et l'aboiement inquiet des chiens. Près du perron, du côté des portes ouvertes sur le jardin, résonnèrent les pas d'un homme qui avançait avec précaution. Thaddée et Oulana en perçurent le bruit à la fois. Elle tressauta, tendit l'oreille. On ne distinguait rien, mais on continuait à ouïr des craquements de l'herbe sous des pas lents, des pas de voleurs. Une espèce d'ombre glissa rapidement devant les portes ouvertes. Thaddée se leva en sursaut, se précipita dehors, mais ne vit personne. La femme effrayée se blottit en se signant dans un coin de la chambre et jeta un regard inquiet sur Thaddée qui rentrait. Il s'assit de nouveau à la même place en gardant le silence.
« Oh, je crains quelque chose !» murmura Oulana.
« Bon, le garde a dû passer auprès de la maison, » répondit Thaddée.
« Oh non, ce n'est pas le garde !»
exclama la femme. « Un chien, peut-être ?»«
Un homme !» répondit-elle et elle se pressa contre lui.
Il y eut encore quelques moments de conversation à demi-mot. Superstitieuse comme une enfant, la craintive Oulana faisait des signes de croix en chuchotant que c'était peut-être des esprits errants, parce que minuit allait sonner. Elle s'étonna en voyant, au sourire de Thaddée, qu'il ne croyait pas aux esprits. Il lui semblait si incontestable que les pauvres âmes reviennent de l'autre monde, errent dans celui-ci et contemplent les lieux dont elles ont été arrachées. C'est en balbutiant encore qu'elle s'endormit auprès de lui. Thaddée alla fermer les portes du jardin, s'assit à côté d'elle et s'assoupit. Un sommeil agité, souvent interrompu, ferma leurs paupières un moment. Ils se réveillèrent brusquement, tous deux, et frémirent. Une grande lueur pénétrait dans la chambre par la porte vitrée. Quoique le foyer se fût éteint et que le jour fût loin, il faisait aussi clair qu'en plein midi. Ce n'était pas la lumière du soleil qui illuminait l'appartement, mais la réverbération de reflets rougeâtres. Thaddée s'écria en bondissant « Au feu, au feu !» Il repoussa Oulana, qui se suspendait à son cou, et il se précipita vers la porte, contre laquelle une poutre avait été arc-boutée du côté de la cour. Une forte poussée, Thaddée enfonça cette porte et s'élança dans le jardin. Il jeta les yeux autour de lui. Le toit entier de la maison était en feu. De l'autre côté de la cour, une autre lueur provenait d'une grange en flammes. Tout le monde dormait. Un cri puissant retentit dans la cour. Plusieurs têtes apparurent aux fenêtres de la ferme et quelques personnes accoururent. Thaddée appelait au secours. En un moment, les habitants du château se rassemblèrent. On envoya acquérir des gens du village et la domesticité se mit à abattre le toit enflammé. Pendant ce temps, la grange brûlait, car les efforts de chacun se concentraient sur le château et personne n'arrivait du village. C'est en vain que l'intendant le parcourait, frappait aux portes de chaumières, battait et poussait les gens devant lui. Il disparaissait avant d'arriver au château. Il se dispersait, se cachait, si bien que les bras manquaient pour apporter de l'eau et démolir les bâtiments incendiés. Seuls les domestiques luttaient contre le feu avec l'aide de quelques paysans. Les autres paysans juchaient sur le toit des chaumières, sur les palissades, sur les arbres, contemplaient tranquillement et silencieusement l'incendie qui dévorait les hangars et les granges. Plusieurs meules de blé brûlaient à la fois d'une flamme immense. Les granges avaient déjà croulé. Le bétail enfermé dans les étables beuglait, les brebis bêlaient. Les chevaux, échappés à moitié brûlés de leurs écuries, couraient et se roulaient dans la cour. La lueur sanglante de l'incendie éclairait le ciel et se réfléchissait dans le lac. Quelques voix impuissantes s'élevaient par-ci, par-là. Quelques mains impuissantes s'attelaient seules au travail. Et le reste des paysans considéraient en silence ce qu'ils appelaient une punition de Dieu, n'osant et peut-être ne voulant pas porter secours. Désespéré et se tordant les mains, Thaddée se tenait tout près de son habitation et regardait, muet, le feu dévorer les bâtiments. Le château sans toit, avec ses longues cheminées noircies au sommet, déjà sauvé mais fumant encore, était entouré d'une masse de tisons ardents et de poutres à moitié consumées. Au loin, sur le monticule auprès de la chapelle, une femme vêtue de blanc se tordait les mains comme lui. Il reconnut Oulana, qui sanglotait tout haut, insouciante d'être vue. Elle avait deviné la cause de l'incendie. Elle s'était aperçue que la porte avait été barricadée du dehors. Elle avait tout compris et maudissait Oxenne en même temps qu'elle-même. Peu à peu, l'incendie commença à s'éteindre et une épaisse fumée se dégageait seulement de ses ruines. Au levant, un ciel serein s'illuminait et s'empourprait annonçant l'approche du soleil. C'était peut-être la première matinée où Thaddée avait la tête à lui. Sa folie était envolée dans les flammes. Il voyait sa position. Il comprenait qu'il était le véritable incendiaire. Il n'est plus temps de reculer, se dit-il en esprit. J'achèverai ce que j'ai commencé. Il se tourna vers le régisseur. On a visiblement mis le feu. Rendez-vous à la chaumière d'Oxenne. Voyez s'il se trouve chez lui. Saisissez-vous de lui et garrottez-le. « Il n'y est pas, » répondit M. Linovski. « Tout le monde l'a vu hier soir s'en aller couper du bois à la forêt où il s'était disposé à passer la nuit. Il ne doit revenir que ce matin. Mais empoignez-le à son retour. » À ces mots, Thaddée rentra dans son habitation sauvée et se jeta sur le canapé où, il y avait si peu de temps, il s'endormait dispo et tranquille à côté d'Oulana. Harassé, il sentit un frisson lui parcourir par le corps. Il brûlait intérieurement, ses yeux étaient gonflés, sa poitrine manquait d'air, il avait la fièvre. Chapitre 13. Le lendemain, Thaddée gisait sans connaissance, dévoré d'une fièvre horrible, et à la porte de la chambre se tenait Oulana en pleurs. Elle avait déjà dépouillé toute honte, toute prudence, tout souci du qu'en dira-t-on. Elle ne quittait pas ce seuil, et comme un chien fidèle, sans manger ni boire, le regard tendu, les yeux rougis, les cheveux en désordre, se tordant les mains, elle restait debout vis-à-vis du lit, y jetant les yeux dès qu'on ouvrait la porte. Elle n'osait entrer, elle ne pouvait s'éloigner. Les gens la bousculaient, la repoussaient, elle ne s'écartait que d'un pas et retournait de nouveau. Plusieurs fois, les yeux égarés du malade rencontrèrent son regard noyé de pleurs. Et lorsqu'il reprit connaissance, ce fut elle qu'il vit la première. Il sourit et fondit en larmes. Sur sa figure à elle se lisait une si affreuse douleur, l'oubli de tout, le délire du désespoir. Pouvait-il la repousser? Mais qui donc en eût été capable? Le même jour, elle s'assit au chevet de son lit et ne s'en éloigna plus. Et Oxen avait des cèpes aux pieds et aux mains, la justice l'interrogeait. Il ne répondit pas d'abord. Prières, menaces, rien n'y faisait. À un angle de l'habitation seigneuriale, on trouva un briquet qu'on constata lui appartenir. On le lui montra. Mais ce fut alors seulement qu'avec un sourire sauvage, il dit « Oui, c'est mon briquet, et c'est toi qui as mis le feu. »« Eh bien quoi, oui, c'est moi. » C'était son premier aveu, et il était décisif. L'instruction, une fois terminée, il resta sombre, silencieux, mais indifférent à tout. Deux fois, il demanda que ses enfants lui fussent amenés. Et aussitôt venu, il les repoussa. Il ne répondait pas un mot aux lamentations du vieil Ulas, et il n'opposait au secret conseil de s'enfuir qu'un geste de la main et qu'un sourire sardonique. Une semaine après, on le trouva sans vie un matin dans son lit. Il ne portait sur lui aucun signe de mort violente et il n'avait aucunement été malade. Le médecin appelé, il ne put qu'attribuer le décès à un effroi violent et au remords. Mais les paysans murmuraient que la veille, il avait fait ses adieux aux siens et qu'il avait été beaucoup plus loquace que d'ordinaire. Que plusieurs jours auparavant, la vieille Frida lui avait apporté on ne sait quelles herbes. Le suicide, cependant, ne put être prouvé, quoiqu'on eût la conviction morale de sa réalité. Oulana apprit la mort de son mari sans en être remuée le moins du monde. Mais, après plusieurs jours de réflexion, les larmes lui vinrent aux yeux et elle eut envie de voir ses enfants. On les lui amena, elle pleura un peu et s'en retourna dans la chambre du malade. Elle ne comprenait pas son crime, elle, tellement sa passion ardente, accrue encore par les sacrifices et la douleur, avait étouffé la voix de sa conscience. Cette nouvelle existence avait même presque anéanti chez elle l'amour maternel, laissé à la porte avec ce vieux hiver oublié. Un étrange délire, un délire coupable, avait cloué ses pensées au lit du malade et détaché entièrement son cœur et son être de ce qui n'était pas lui. Il était temps que le remords, la conscience, le regret se fissent entendre et il continuait à se taire. Un beau soir d'été, Thaddée, déjà convalescent, alla s'asseoir sur le perron du côté du jardin. Pâle, exténué, triste, consumé de remords, qui avait trouvé l'accès de son âme dans un moment de lucidité, il était là, le regard absorbé par le spectacle des scintillements du lac aux lueurs du soleil couchant. À ses pieds était étendu son chien fidèle et accroupi la pauvre Oulana. Tous deux avaient les yeux fixés sur les siens, qui erraient ailleurs, et n'étaient pas tournés de leur côté. Tous deux se tourmentaient en voyant que sa pensée était loin d'eux. Thaddée s'enfonçait dans cette contemplation muette. Cette seule soirée lui rappelait tant de soirées de sa vie, tant d'événements, tant de sensations. Tout se taisait alentour. Soudain, au sommet du clocher de l'église, la petite cloche se mit en branle. Seule d'abord, elle tinta lentement et tristement, puis une autre cloche se joignit à elle, et la grosse voix de la troisième, leur aînée, éclata en une note funèbre. Ce n'était pas l'heure du service. Thaddée dirigea sur Oulana un regard qu'elle attendait déjà. « Est-ce demain fête ?» demanda-t-il. « Oh non !» répondit-elle. « Et pourquoi sonne-t-on les cloches ?»« Pour un enterrement. »« De qui ?»« D'Oxen !» chuchota-t-elle tout bas. Thaddée ignorait qu'il fût mort. À ces mots, il se leva brusquement. Il voulait dire quelque chose. Les paroles lui manquèrent et il retomba sur sa chaise. Il considérait Oulana et son cœur souffrait de n'apercevoir en elle aucun regret, aucun chagrin, aucun remords. Ses lèvres étaient presque souriantes, ses yeux étincelants de tendresse s'attachaient à lui et elle avait prononcé d'une voix si calme le nom d'Oxen que pour la première fois elle l'épouvanta par sa passion, par son attachement. Pour la première fois, il fut presque mécontent de cet inconcevable amour. Et sa conscience lui cria d'une voix terrible « Mais c'est toi qui l'as tué !» Il promena sur l'autre rive du lac ses regards troublés. Les cloches de l'église ne cessaient de gémir lentement. Elles semblaient pleurer le défunt. Elles semblaient dire aux vivants « Demain, nous sonnerons aussi pour vous !» Dans le village se firent entendre le chant des prêtres et les lamentations des femmes. Des lamentations sonores, retentissantes. C'étaient des paroles pleurées toujours sur la même note et qui ne parvenaient pas distinctement jusqu'à ses oreilles. Il percevait seulement la triste résonance de ce chant larmoyant, strident, lugubre, mêlé au chant du prêtre. Le convoi de Hoxar suivait l'autre bord du lac. Thaddée aperçut une croix noire, plusieurs bannières, et, traîné par une paire de bœufs noirs, un chariot auprès duquel cheminaient des femmes en larmes. Un prêtre en chape noire le précédait en chantant des prières, et une poignée de paysans le suivaient avec des cierges éteints. Et la cloche de l'église accompagnait le sanglot des femmes, les chants des prêtres, et le grincement des roues du char funèbre qui traînait un cercueil blanc au cimetière. Et Oulana regardait sans pleurer. Seulement elle plongea son regard dans les yeux de Thaddée comme pour lui dire ainsi « J'ai tout renié pour toi ». Les yeux de Thaddée s'obscurcirent. Il se leva de sa chaise, voulut courir à sa chambre et s'évanouit sur le seuil. Ses domestiques le portèrent sans connaissance sur son lit, et de nouveau la fièvre le saisit, plus effrayante encore que précédemment, puisqu'elle était provoquée par l'abattement moral et par le remords. Les paroles qui s'échappaient de ses lèvres décelaient l'horrible agitation de son âme. Il repoussait l'infortunée Oulana qui fondait en larmes agenouillée auprès de son lit. Il rejetait ses couvertures, voulait éteindre l'incendie. Il s'accusait de meurtre, lavait ses mains d'un sang qu'il voyait partout. D'autres fois, il luttait contre on ne sait quel fantôme, se couvrait les yeux, tremblait et pleurait. Puis ensuite, les larmes aux yeux, il s'excusait humblement devant ses pères et mères. « Mais je ne suis pas coupable, disait-il, je ne suis pas coupable, elle n'est pas coupable. Il s'est tué lui-même, il est mort, il s'est brûlé. Moi, je ne l'ai pas tué. Ce sang, ce n'est pas son sang, c'est le mien. Je me suis blessé, j'en souffre, mon cœur en souffre. Il faut que je m'enfuie, on va me poursuivre, m'emprisonner, me brûler. Il faut que je m'enfuie au loin, et je la prendrai avec moi. Non, non, je ne la prendrai pas, j'irai seul. Regardez, mais pourquoi est-il venu avec un tiseau allumé et le couteau à la main? Il veut me tuer! Mon père, ma mère, secourez-moi, je ne suis pas coupable, je ne suis pas coupable. » Et il souriait ensuite gaiement. Allons à la forêt, disait-il, sur le tombeau des deux frères. Personne ne nous y verra. C'est là qu'a commencé, c'est là que finira notre amour. Sur un tombeau, sur un tombeau. Oulana, genouillée au bois de son lit, pleurait. Maintenant seulement, au remords de Thaddée, elle avait compris son crime. Plusieurs fois, elle s'arracha de son chevet et, folle, courut au lac. Mais les cris du malade, qui arrivaient de loin à ses oreilles, lui saisissaient le cœur et la faisaient revenir sur ses pas. Elle n'avait pas le courage de mourir et désirait déjà la mort. Elle passa auprès de lui plusieurs de ces horribles journées. Enfin, la fièvre commença à se calmer, et le malade, très affaibli, tomba d'une irritation excessive dans une inertie et une insensibilité complètes. Le médecin promettait cependant sa guérison. À plusieurs reprises, il voulut le séparer d'Oulana, mais chaque fois qu'il l'essaya, le malade enfiévré de nouveau la cherchait avec inquiétude et l'appelait par son nom, si bien qu'elle, qui pleurait derrière la porte, on dut finalement la réadmettre à son chevet. À la longue, les forces revinrent à Thaddée et il recouvra sa connaissance. On eût dit que tout s'était effacé de sa mémoire. Il ne faisait plus allusion à rien et la présence d'Oulana lui paraissait naturelle et nécessaire. Elle le servait, ne le quittait pas d'une seconde. La malheureuse ne ressemblait plus à ce qu'elle était la première fois qu'il la rencontra insouciante et gaie, en train d'aller ramasser les champignons dans le bois. Elle avait le visage desséché, les yeux caves, les lèvres bleuies et blêmies. Une pâleur maladive remplaçait le vif incarnat de son teint. Son regard triste mais profond, plein d'expression, avait seul conservé la trace de son ancienne beauté. Elle avait pleuré, sans réussir encore à perdre la vue ou à tenir l'éclat enchanteur de ses yeux. Thaddée, ni à elle ni à personne, ne souffla jamais mot du passé, mais le soi-même qu'il mettait à éviter toute considération rétrospective trahissait qu'il en avait souvenance et que c'était là un sujet qu'il écartait de parti pris. Sa façon d'être avec Oulana n'avait pas changé, mais c'est en se simulant des dehors qu'il cachait que sa passion était devenue une habitude et un devoir. Elle ne s'en apercevait pas, et alors même qu'elle l'eût remarqué, elle n'aurait pu comprendre qu'un amour si ardent, si chèrement acheté, puis d'un jour finir, se congeler, se rompre. Pour elle, ce n'était encore qu'une entrée dans la vie. Elle avait à peine goûté à la volupté, et ayant été abreuvée de fiel, elle la désirait de nouveau et la convoitait avidement. Elle attribuait à la maladie, à l'affaiblissement, presque à l'égarement d'esprit, les manières plus froides de Thaddée. Elle était sûre qu'avec la santé reviendrait l'amour, et un bonheur devant lequel ne se dressait plus aucun obstacle, sinon un sombre souvenir. Dans son cœur, ce souvenir même s'oblitérait. Elle aimait tant. Il en était autrement de Thaddée, que, dans son mutisme, ce souvenir tourmentait et rongeait. Et la vue d'Oulana était maintenant, à perpétuité pour lui, un remords vivant. Il l'aimait encore. Mais il se reprochait cet amour comme un crime, et plus d'une fois la pensée de se libérer d'elle lui avait traversé le cerveau. Il avait pitié de lui et d'elle, et cela seul le retenait encore. Il sentait qu'elle en mourrait, que sans elle il serait malheureux, quoique avec elle il ne pût point être heureux. Oulana, sans quitter ses vêtements rustiques, restait au château, toujours auprès de lui. Ses enfants, sa chaumière ne l'intéressaient plus du tout, et de jour en jour, elle y pensait moins. Thaddée avait honte, et il ne pouvait, ne savait la repousser, ni n'en avait le courage. Il toléra qu'elle devint maîtresse de maison, presque despotique, la compagne de toutes les heures de sa vie, souvent importune et toujours un objet de raillerie pour les gens. Peu lui importaient les moqueries ou le mépris de son entourage. Elle n'y prêtait aucune attention ou leur opposait de la fierté. Elle se sentait la maîtresse, tout en ne voulant tirer profit de sa domination que pour mieux satisfaire sa passion. Le temps s'écoulait ainsi et Thaddée recouvrait sa santé, sans regagner sa gaieté ni sa quiétude d'autrefois. Une nuée noire était sans cesse suspendue au-dessus de sa tête, et les caresses d'Oulana ne parvenaient plus à la chasser. Elle ne concevait pas le refroidissement chez lui d'un amour qui chez elle était bouillant et inassouvi. « Il est malade, » pensait-elle, « il se rétablira et redeviendra joyeux. Oh, mais nous serons heureux !»